Pluriel gay.
Ah, ça y est, on y est.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour la énième émission de Pluriel gay. Ce soir, un plateau très fourni, mais je vais d'abord remercier Bernard à la régie. Merci Bernard d'être parmi nous une nouvelle fois.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Voilà. Et à tes côtés, Michel, qui n'a pas de, qui peut parler s'il veut, tu as le droit de parler. Mais en tant que stagiaire, on t'autorise.
Tu peux t'exprimer.
T'as 30 secondes, après c'est fini, hein, parce qu'il faut préparer le café.
Bonsoir à tous.
Oui.
Et merci pour le stagiaire. C'est quand je vais changer de statut?
Ah bah.
Jamais.
J'aurais peut-être vidé les
poubelles. Non, mais les stagiaires, tu sais, sont exploitables et corvéables.
Tu feras le café.
Donc. Voilà, après notre départ, d'ailleurs, tu sais, quand tu as préparé le balai à serpillière, il faut que tu nettoies les studios.
Entre nous, on t'appelle la secrétaire.
Je ferai n'importe quoi.
Bon, très bien. Alors, le plateau, je dirais, assez riche.
Bernard a quelque chose à dire.
Ah, Bernard a quelque chose à dire. Mais il veut le dire maintenant, c'est ça?
Mais je ne sais pas, il n'a pas dit.
Écoute, non, il n'écoute même pas.
Il donc, se confie comme ça.
Ouais, non, mais toi, il ne nous écoute même
ça
plus.
Ça y est, il ne nous écoute plus. Bon, il dira
bon,
à la
on
fin
verra après. Ouais, à la fin de l'émission, on va faire plein d'annonces, de toute façon.
Parfait, voilà.
Donc, on casera celle de Bernard.
Allez.
Mais je suis inquiet parce que c'est rare qu'il ait quelque chose à dire, Bernard. Qu'est-ce que ça va
tu
être? Donc le plateau est extrêmement fourni ce soir, on est au complet. Il va falloir pousser les murs de la radio, bientôt du studio. À ma droite, Laurence, dont vous avez entendu la jolie voix, bon qui m'accompagne tout toutes les semaines ou presque, anime l'émission
une
avec
fois
moi.
Une fois de plus, je suis la seule fille.
Voilà, la seule fille. Comme disait Yvan, la caution lesbienne.
Exactement.
J'ai jamais dit un truc pareil. Quelle horreur.
Tu le disais en off, mais je suis désolé de le redire
le
à l'antenne.
Le quota.
Voilà, le quota, voilà. Le quota fille lesbien.
Il manquerait plus que je sois noir.
Voilà, on aurait la totale. Ah, voilà. Ça, ce serait bien. On aurait tous les quotas. À tes côtés, Fabrice.
Bonsoir.
Fabrice qui va nous parler de cinéma, une fois n'est pas coutume, ce soir.
Ouais, de voilà. Cinéma, un petit film que j'ai vu avec mon chéri.
Et qui t'a énervé.
Ah, qui m'a énervé.
Ouais.
Vilain, vilain.
Énervé.
Très ah, ouais. Énervé.
Donc, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Mais maintenant, je me tourne vers Roméo, Isart. Et Yvan Mitifio. Yvan Mitifio, est-il besoin de le présenter?
Non, mais on ne le présente pas d'ailleurs.
D'ailleurs, on ne le présente pas.
Il est imprésentable.
Il n'est pas présentable.
Il n'est pas présentable.
Donc, Yvan Mitifio, directeur du festival Écran de Nice, chroniqueur cinéma et autres à la radio, notre plus fidèle chroniqueur depuis les origines pratiquement. Hein. Et Roméo Isart, qui est là en tant que jeune étudiant. Non, c'est plus un étudiant maintenant, c'est fini les études.
Je prépare les concours pour faire prof. Donc.
D'accord. Et. Ce qui nous a intéressé ici, c'est que tu as fait un mémoire, donc sur la mémoire, ça tombe bien, un mémoire sur la mémoire LGBT. D'ailleurs, on va en parler de façon plus approfondie, évidemment. Ça s'appelle « Silence, on parle », c'est un mémoire que tu as présenté l'année dernière, que tu as soutenu en juillet 2017.
Oui, c'est ça.
Voilà, l'Université Lumière Lyon 2, dans le cadre de tes études. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça parle justement de cinéma. On est en plein dedans. Ce soir, ça sera très cinématographique. Ça parle de projection, de festival militant, mais sous un aspect historique, je dirais.
Voilà, c'est ça. J'avais entendu parler d'Écran Mix, qui était un grand festival LGBT sur Lyon.
Le plus grand festival de France.
C'est ça, le meilleur.
Le meilleur.
Et j'étais en histoire, j'étais intéressé par les questions LGBT, j'avais cofondé l'association LGBT Lyon 2, et donc je cherchais un sujet de mémoire, j'étais passionné aussi par le cinéma, et donc j'ai cherché c'était quoi les origines des festivals LGBT ou queer en France. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Écran Mixte et Yvan.
Et maintenant, Roméo fait partie de notre équipe en tant qu'expert.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Écran Mixte, justement, est un des rares festivals en France à proposer son festival sur deux aspects. L'aspect contemporain, moderne, avec la présentation d'œuvres inédites, mais aussi l'aspect patrimonial, qui est très intéressant, qui n'est pas toujours pris en compte par d'autres festivals. Mais Écran Mixte, depuis le début, s'intéresse donc au patrimoine et a pu présenter au festival justement des films qu'on a pu voir sur grand écran, qu'on n'aurait pas vu sinon. Des films qui sont sortis il y a très très longtemps.
En fait, la plupart des festivals LGBT ont un volet patrimoine et mémoire au sein de leur programmation. Mmh. Mais généralement, ils font tous un panorama de l'actualité. Nous, en fait, quand on a créé ce festival est en fait un enfant, si vous voulez, du livre de Didier Roth-Bettoni, L'homosexualité au cinéma. Quand il a sorti son livre il y a 10 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de films à redécouvrir, des tas d'auteurs à explorer. Et on s'est dit, on va faire ça, on va poursuivre ce travail-là. Voilà. Entre-temps, on avait rencontré aussi Michel Chaumara à Lyon, qui nous avait vraiment sensibilisé sur la nécessité, l'absolue nécessité de prendre soin de notre mémoire, de la montrer au grand public, et de faire tout un travail de revisiter notre histoire. Ben non, pas revisiter, parler de notre histoire, la préserver, puisque comme Michel le dit, si les homos ne prennent pas soin de leur histoire, qui le fera ?
Alors, de façon plus globale, je dirais que de ces dernières années émerge une préoccupation particulière auprès des militants LGBT, c'est la conservation de la mémoire. Donc, ça devient une préoccupation, on le sent déjà autour de ce qui se passe à Paris, puisqu'il y a une tentative régulièrement avortée, je dirais, qui n'aboutit pas en tout cas, de création d'archives LGBT, à l'exemple de ce qui existe déjà dans les pays anglo-saxons la plupart du temps. Et puis ici à Lyon, on a eu quand même, tu parlais de Michel Chaumara, qui a décidé de léguer, peut-être pas le bon mot, mais de faire une donation. De faire une donation, et le pauvre s'y m'entend, il va dire non, je ne suis pas mort, mais une donation à la Bibliothèque municipale de Lyon. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce qui l'intéressait aussi, c'est de faire une donation à un établissement public. Et il a fait une donation, ça concerne des milliers de documents. Alors, on n'est pas seulement dans le cinéma, évidemment, mais des affiches, des tracts, des livres, etc., etc. Il en avait énormément chez lui, en fait, entreposé dans son grenier. Et puis, il a tout légué, je reviens là-dessus, non, tout donné. Il a fait une donation à la bibliothèque.
Il n'a pas encore donné.
Il est en dépôt, en fait.
C'est ça, c'est en dépôt. En dépôt depuis 1992. Donc il a déposé son fonds, puisqu'il a un fonds exceptionnel qui est beaucoup plus large que les questions LGBT ou queer ou féministes. Et voilà, et dans sa convention de dépôt, il y avait une clause sur les cultures entre guillemets souterraines. Et donc c'est à partir de ce pré-fonds qu'a pu se monter dans les années 2000 grâce à sa... Il était chargé de la mémoire... Donc à la mairie de Lyon, et grâce à ce travail-là, en 2005, il y a eu une exposition exceptionnelle qui s'appelle Follement Gay, et donc qui a permis au point G d'émerger à la bibliothèque municipale. Et donc aujourd'hui, on a, c'est peut-être en France et en Europe le seul endroit dédié au genre et aux sexualités. Donc, qui est un endroit public. Oui. Donc ça, c'est grâce à Michel Chaumara et ensuite au travail des bibliothécaires du Point G.
Voilà, il y a deux choses, en fait, à la bibliothèque municipale que tu as évoquées. Il y a le fonds Chaumara, effectivement, et il y a le Point G. Le Point G qui n'est pas vraiment un centre d'archives, mais qui est plutôt un centre de documentation, qui est d'ailleurs dont s'occupe brillamment Sylvie Tomillo. Et en fait, on peut aller à la bibliothèque, aller s'adresser au Point G pour avoir des documents spécifiquement sur spécifiquement sur le genre, le féminisme, et puis les femmes, et puis aussi l'homosexualité, transgenre, etc. Parce qu'on réunit tout sous le thème genre. Parce que c'est vrai que LGBT, ça a un côté communautaire, j'ai l'impression, qui gêne beaucoup en France.
Oui, c'est vrai. Genre et sexualité, c'est des termes en fait, qu'on utilise à l'université, parce que ce sont des termes plutôt scientifiques. Genre, ça a été pensé dans les années 70, ça a été après théorisé par des grandes théoriciennes, des grandes historiennes comme John Scott dans les années 80. Et donc voilà, c'est à partir de ça qu'aujourd'hui, à l'université, on avance sur ces questions de féminisme, et de queer et de LGBT. LGBT, le terme LGBT, c'est vraiment issu des mouvements associatifs, militants qui sont construits dans les années 80-90 sur les convergences des luttes qui n'existaient pas dans les années 70. Et donc voilà, il y a ça qui s'affronte, c'est vrai, et c'est pour ça que sur Paris, il y a des mouvements au sein des associations pour qu'il y ait un centre qui soit beaucoup plus géré par les associations. Communautaire, c'est pas un gros mot, hein. Et qui soit donc ouvert au public et pas coupé justement de ces communautés.
Voilà. C'est pas un gros mot, mais en France ça l'est, c'est ça. On est un peu toujours avec ce mot-là, on est toujours très gêné, ce qui ne gêne pas dans les autres pays. San Francisco, c'est les archives LGBT, puis basta, quoi.
Et du coup, on retrouve quoi comme type de document ? Il y a des films aussi, des livres, des magazines,
Alors,
genre Le Premier Guépier, des trucs comme ça ?
Oui, il y a la collection complète de Guépier, qui est aussi au centre LGBT, puisqu'il y a une bibliothèque qui va ouvrir. Mais oui, il y a ça. Oui, c'est une collection exceptionnelle au niveau des revues. Donc, il y a toutes les anciennes revues, donc gay, homo. Au fond, Chomara est quand même très orienté masculin. Donc, il faudrait ouvrir ça plus aux femmes.
Ces mecs, on veut toujours prendre le dessus. Hein.
C'est ça.
Voilà. Mais c'est un fonds exceptionnel. En fait, c'est quelqu'un qui a fait de ce qu'il appelle de l'ego archive. Donc, il s'est archivé lui-même. Donc, il était dans, par exemple, il était présent en 1975 quand les prostituées à Lyon ont occupé Saint-Nizier. Donc, il a participé à ce mouvement. Il a récupéré des photos. Il en a fait. Voilà. C'était pas un militant qui était dans les associations, mais il était toujours là à glaner autour. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours voulu s'archiver tout ça parce qu'il avait toujours peur que ces traces-là disparaissent. Et il a raison, il y a un risque que ces traces disparaissent, puisque ce ne sont pas des traces qui sont faites, qui sont archivées normalement par les services, on va dire, publics, ouais, pour l'instant.
Et donc, Roméo est venu taper à notre porte, d'abord parce qu'il est fan de cinéma, c'est sa première passion, et puis il a dit, on va déposer vos archives. Donc, Écran Mixte, on a fait tout un travail d'inventaire cet été, et on a déposé nos archives au sein des archives départementales du Rhône, grâce à toi. Et je crois qu'on est la 4e association LGBT en France à le faire.
Oui, il y a peut-être pas la 4e, mais on est l'une des premières, en tout cas c'est sûr, la première sur Lyon officiellement à faire ça. Après, il y a toujours des fonds qui rentrent à droite, à gauche, hein, quand on cherche bien. Voilà. En tout cas, officiellement, oui, c'est une des rares associations en France qui a fait ça. Il y a eu Ed, Act Up, David et Jonathan aux Archives nationales qui ont déjà donné, déposé plutôt. Parce qu'il faut bien faire la différence, c'est un peu technique, mais entre le don et le dépôt. Et si, par exemple, on veut que ces archives, ces documents ne soient pas coupés de leur communauté source, de celles et ceux qui peuvent co-construire ces mémoires, co-construire cette histoire, il faut déposer. C'est-à-dire que les associations gardent la propriété sur leurs archives. Voilà, que ce soit ouvert à tout le monde, à toutes et à tous, parce que c'est du patrimoine.
C'est la différence entre le dépôt et le don, ce que j'ai proprement appelé le legs tout à l'heure.
C'est ça. Le legs, c'est encore une chose, c'est après la mort. Mais Michel ne serait pas...
On en parlera dans quelques années.
Il est encore vaillant.
On ne va pas l'enterrer tout de suite. Ouais.
Je me rabande encore.
Il sera ravi de l'entendre. Donc du coup... ce que je voulais dire aussi, moi, enfin, c'est vrai qu'il y a une préoccupation donc récente, plus ou moins, sur la conservation des archives, et il existe énormément dans les greniers, les débarras de tout un chacun, des tas de documents qu'on a tous eu l'occasion de faire ou d'acquérir, etc., d'une manière ou d'une autre, qui serait intéressant de pouvoir regrouper un jour pour effectivement qu'ils deviennent un petit peu sous forme de dépôt ou de don, de legs, etc., dans un lieu approprié où on puisse les consulter et les conserver aussi, les valoriser, les consulter et les conserver. Alors moi, je pensais simplement à une chose. Il y a quelques années de ça, avec Antoine Lidier, on avait fait une émission ici, parce qu'il a écrit un bouquin à l'époque qui était donc consacré à la vie LGBT à Lyon dans les années 70. Et il a eu accès à des documents extraordinaires qui sont des documents privés la plupart du temps. Et je pense notamment parce qu'il avait fait son livre sur association, il avait décliné association, ensuite les commerces, etc. Et pour un simple exemple, pour revenir sur les commerces, il a interrogé pour son livre Jean-Claude, qui est l'ancien propriétaire de La Petite Taverne. Et Jean-Claude, c'est quelqu'un qui est vieillissant lui aussi, et dont la mémoire va disparaître quand il sera disparu. Or, il se trouve que Jean-Claude, non seulement a des choses... Le problème de Jean-Claude, c'est qu'il ne veut plus parler de cette époque. C'est exceptionnel qu'il en ait parlé avec Antoine Idier. Ensuite, parce que, bon, il a eu beaucoup de problèmes après au déclin de La Petite Taverne, je dirais. Donc ça, il ne veut plus revenir sur cette période, ce qui est dommage, parce que ce serait intéressant, justement. Et Antoine a eu des bribes d'informations, justement, très intéressantes là-dessus. Et puis surtout, il a... Par exemple, hein, c'est juste un exemple, à La Petite Taverne, il y avait une personne, une dame, qui s'occupait du vestiaire. Et sa fille, cette dame est décédée maintenant, et sa fille a chez elle, mais dans son grenier, dans des boîtes, des centaines et des centaines de photos qui ont été faites pendant presque 20 ans à La Petite Taverne. C'est la plus ancienne boîte gay de Lyon, LGBT, enfin gay et lesbienne, on va dire. C'était plutôt masculin quand même s'il y avait des filles. Et pendant 20 ans, des photos de cette époque-là. La boîte a ouvert en 71 et jusque dans les années, début des années 90, il y a plein de photos, plein de gens, dont certains ne sont plus là, dont certains ont été emportés par le sida, par exemple. Bon, après, c'est difficile aussi parce que peut-être que les personnes ne veulent pas que leur image soit diffusée. C'est peut-être une autre histoire, mais je veux dire, chez tout le monde, il existe des tas de choses comme ça, en fait.
Que mais qui soit... a pris ces photos à la petite taverne ?
Eh bien, par exemple, sa mère, elle en prenait, ni plus D'accord. ni moins. Elle avait son appareil, son Kodak à l'époque. Puis elle prenait plein de photos. Elle descendait, puis elle prenait des photos. Il y avait toujours un spectacle, il y avait, tu vois. Et puis, il y avait, par exemple... l'anniversaire de je sais pas quoi, hop, avec un grand gâteau, voilà, il y avait Zaza Napoli qui sortait du gâteau.
Gérald qui sortait du
gâteau. Non, j'étais trop jeune, voyons, on ne pouvait pas aller.
Vu comme un mère, seulement vêtu d'un boa.
Voilà, mais enfin, c'est pour dire qu'il existe ces légendes, des tas de choses. Je discutais l'autre jour aussi avec un ami qui me disait que dans son grenier, il a plein de revues Samouraï, par exemple. Samouraï qui n'est pas très connu maintenant, dont on ne se rappelle plus bien, mais qui a été aussi une revue gay. Et je dis bien gay, encore une fois, importante. Mais par exemple, il y a un magazine qui s'appelait Lesbia, qui a été un magazine spécifiquement féminin. Oui. Pareil, ce serait intéressant d'avoir des traces.
Alors, les Lesbia, ils sont au centre LGBT, ils seront disponibles.
À Lyon, oui. Donc chez nous. D'accord. Alors, justement, Laurent, ce qui est intéressant, c'est que Roméo est aussi à la base d'une grande initiative qui va aboutir en janvier. Il va y avoir une bibliothèque au centre LGBTI.
Oui. Hein.
Donc ça c'est super.
Oui. Ça, on a récupéré les anciens livres en fait qu'il y avait au centre de deux associations piliers du centre qui sont Aris et le FGL. Donc il y avait une ancienne bibliothèque dans le local qui était rue Saint-Polycarpe.
Oui.
Et donc voilà, tout ça c'était dans les placards, il y avait tous les anciens guépiers, il y avait les lesbias, voilà. Donc, bon, quand je suis allé toquer à la porte du centre LGBT pour savoir s'ils avaient des archives pour mon mémoire, là, ils m'ont dit, bah oui, on en a, mais c'est pas classé. Enfin, voilà. Et Laurent, qui est maintenant président du centre LGBT, donc m'a proposé d'animer une commission bibliothèque et archives. Donc, on a réussi à avoir une subvention, et donc maintenant, on va avoir cette bibliothèque au centre LGBTI, qui sera ouverte à toutes et à tous à partir de janvier. Et donc, il reprend tous ces anciens fonds.
Et du coup, les gens pourront venir comme une bibliothèque, quoi, emprunter des magazines.
Alors, pour l'instant, on est en horaire. On n'a pas une amplitude horaire qui va être très, très large. C'est encore des bénévoles. Faut que, voilà, si ça marche, bien sûr, oui.
Mais voilà, à terme, le principe, c'est de pouvoir faire du prêt.
Bien sûr. Le prêt sera forcément de toute manière possible.
Et de la consultation d'archives, donc.
Alors, les archives, c'est plus compliqué parce qu'il faut, un espace qui est adéquat. Mmh. Il faut des lieux de stockage. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut essayer de voir plus large et peut-être travailler avec les institutions qui sont déjà sur Lyon, qui sont la bibliothèque municipale, les archives, leur demander leur expertise scientifique et technique parce que voilà, enfin ça c'est pas quelque chose qui s'invente quoi, enfin c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà, le but par contre un des enjeux qu'il y a au centre, c'est justement de faire le relais aussi avec ces institutions et peut-être aussi de pousser à avoir un centre sur Lyon aussi qui s'en occupe. Ça serait un beau projet à long terme. Voilà, déjà je pense que l'urgence, comme donc le souligner Gérald, c'est déjà de collecter ces archives et d'éviter qu'elles partent dans la nature, parce que ça, c'est le drame absolu qu'il faut éviter à tout prix.
Les archives départementales, on peut y aller pour consulter des
documents ? Bien sûr, bien sûr, c'est ouvert, gratuit à tout le monde. Voilà, personne ne le sait, il faut le dire. C'est pour les citoyens et les citoyennes, c'est fait pour ça. Voilà. Donc là, il y a les archives d'écran mixte, il y aura d'autres archives qui vont arriver, il y a une grande collecte de femmes, d'archives de femmes qui est organisée depuis l'année dernière. Il y aura un grand colloque donc à Angers en mars prochain. Et aux archives départementales en juin, il y aura donc une présentation de ces archives aux archives départementales métropolitaines. Donc ils sont vraiment aussi dans cette dynamique-là. Et c'est important aussi de s'engouffrer là-dedans, puisque les archives du féminisme, les archives des femmes, ce sont des mouvements qui ont aussi porté les mouvements LGBT. Et voilà.
Alors moi, avant de passer à la chanson, qui ose ouvrir la porte là, comme ça, sans frapper ? Il y a un intrus qui veut s'introduire dans le studio. Donc du coup, avant d'écouter la chanson que tu nous as préparée,
oui.
Laurence.
C'est moi qui l'ai composée, je tiens à le dire.
Oui, elle l'a écrite, elle l'a même chantée. Non, tu n'as pas chanté. C'est...
Non, j'ai dit à quelqu'un, chante là, voilà. À ma place.
Et c'est pas n'importe qui.
Ah ben non.
Et donc, je voulais dire deux choses. Alors, une petite remarque pour la bibliothèque. Est-ce que vous avez pensé à la nommer, la bibliothèque? Je dis ça parce qu'à Paris, elle est nommée, la bibliothèque du Centre de l'été, Jean Le Bitou. Et est-ce que vous avez pensé?
Ah, moi, j'ai des idées, mais...
J'en ai une. Non. Non, non, attends que je sois mort.
Excuse-moi.
Mais...
Laurent Wauquiez.
Cocotte, c'était le nom de la dame du vestiaire de la petite taverne que j'évoquais tout à l'heure. Non, Michel Branchu, par exemple, ça serait logique.
Oui. Michel Branchu.
Enfin, mon avis, hein, c'est ça. Bref, Michel Branchu, fondateur de Harris. Il y a d'ailleurs une très belle photo de Michel Branchu, mais qu'on peut voir partout.
Oui.
Avec Jean Marais, donc ce sera plusieurs photos.
Donc ce sera un nom d'homme.
Ah oui.
Moi, je pensais à Virginie Despentes.
Ah oui. Voilà. Eh bien, les deux, Virginie Despentes et Michel Branchu.
Une bibliothèque Despentes dans les pentes de la Croix-Rouge.
Oui, c'est
Virginie Despentes qui est quand même encore vivante et qui est active.
Ouais, mais comment
ça, une grande figure.
Voilà. Mais comment en France, on a l'habitude de donner leur nom à des gens morts en général. Ben
justement, ça changerait un petit
voilà.
peu.
Voilà.
À des hommes surtout.
Par exemple,
à des hommes vivants, mais des femmes mortes.
C'est vrai que Johnny Hallyday avait une seule rue. En France, à Charvieux-Chavagneux, ils ont volé la plaque de rue. Non, mais c'est vrai.
T'es sérieux?
Ouais, ouais.
Il y avait une rue à Charvieux-Chavagneux.
Charvieux-Chavagneux, Pontier-Ruy, je sais plus. Enfin, c'est à côté. Ouais. Et c'est la seule plaque de rue en France, s'appelait rue Johnny Hallyday. Bon. Et ils ont volé la plaque.
Merde,
voilà.
Salaud. Aucun respect.
Voilà. Mais maintenant, il va y en avoir plein des rues Johnny Hallyday.
Elles sont en vente également. Les plaques sont en vente.
La plaque est en vente alors. Elle est en vente, donc ils l'ont volée, ils l'ont mise en vente.
Oh, salaud.
Mais c'est pas normal ça. C'est du vol.
C'est
on peut
Michel
pas mettre...
qui l'a.
Ouais,
je disais effectivement que
c'est toi qui l'as volé.
Non, oui, non, mais ça faut pas le dire. Mais justement, grâce à moi, maintenant on peut les vendre et les acheter. Donc vous appelez directement le maire de Charvieux-Chavagneux et puis vous pouvez avoir pour peu d'argent une belle plaque de Johnny Hallyday.
Enfin, tout ça pour dire qu'en général on attend d'être mort pour nommer les rues. C'est très rare qu'on nomme une rue de quelqu'un qui soit vivant,
c'est
surtout en France. Alors, du coup, c'est vrai que ça serait une bonne idée, hein, pourquoi pas. Pour revenir, qu'est-ce que je voulais dire? Michel Branchu, donc lui, il est mort, par contre, c'est sûr, c'est le fondateur d'Harris, la plus ancienne association LGBT française. Et il y a des photos, je disais, qui tournent, enfin, qu'on peut voir quand même sur Facebook. C'est les photos de la visite de Jean Marais à Harris, où ça a été pris dans les débuts des années 80, où on voit Michel Branchu discutant avec Jean Marais qui fume sa clope dans les locaux de Harris de l'époque, que tu évoquais, rue Sainte-Polycarpe.
Jean Marais est venu à
Harris. Oui.
Énorme.
Il est venu, il y a eu toute une série de photos qui ont été faites, et ces photos, alors je ne sais pas comment, elles ont été diffusées. Alors peut-être qu'Antoine Didier, dans son bouquin, elles n'y sont pas, ces photos.
Il ne parle pas d'Harris.
Il n'en parle pas d'Harris. Non. Ah ben oui, puisque c'est avant.
Années 70.
Voilà, ces années 70, c'est avant. Voilà, lui, il parle de Lyon des années 70. Et Harris, c'est vrai que l'association est née en 80. Et ces photos, elles sont extraordinaires. Mais je ne sais pas d'où elles sortent. Et elles sont divulguées, je dirais, diffusées sur Internet. On peut trouver très facilement en tapant Jean Marais, Harris.
Ah, Michel, on a peut-être un petit peu.
Ouais. Alors, en tout cas, pour terminer avant de passer à la chanson... tout ce que tu dis sur les archives, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de dispersion de ces archives?
Si, bien sûr, mais en fait, les archives sont déjà dispersées. Donc voilà, c'est le risque, c'est de perdre les archives. Le risque, c'est que ça. Voilà. Un autre risque, c'est aussi que les archives soient rachetées par des universités, par exemple américaines, et qui partent à l'étranger. Ça, c'est aussi un risque.
C'est possible, ça.
Ça existe déjà, en fait. Voilà. Et ça.
Mais c'est autorisé.
C'est des documents. Comme c'est des documents privés, il y a des collectionneurs qui arrivent,
oui.
Et voilà. Donc, c'est pas grave en soi, puisque après, c'est quand même conservé dans des conditions, dans des bonnes conditions. Ce qui est grave, c'est que c'est coupé des communautés sources.
Mmh.
Et ça, c'est un vrai drame aussi. Donc, il faut que les associations, les militants, les militantes s'emparent de ces questions de mémoire, d'histoire, d'archives. Et voilà, c'est un combat qui se fait pas une fois. C'est un combat sur le long terme. Et il faut continuer à s'archiver, s'auto-archiver, garder des traces et tout ça.
Voilà. Je vais m'archiver. Non seulement j'aurai mon nom à la bibliothèque, mais je vais m'archiver de mon vivant.
C'est ça.
Et puis il y a l'archive et puis il y a la diffusion aussi qui est primordiale.
Oui.
Je vais t'archiver, mais il faut faire... faut inciter les gens à venir voir, à s'intéresser.
C'est ça, ça c'est de la médiation
culturelle. Notamment les jeunes, ouais.
Faire des expositions.
Bien. Alors, en deuxième partie de l'émission, on viendra plus sur ton mémoire, mais aussi en parlant de cinéma avec toi, Fabrice, comme je le disais en début d'émission, puisque tu avais un film qui t'a vraiment hérissé le poil.
Ah, énervé.
Voilà. très énervé. Et toi, ma petite Lolo, donc, parle-nous de cet immense artiste que tu adores, Yvan. C'est une artiste que tu adores, nous allons entendre maintenant.
Non, en fait... Non, mais en fait, au départ, la chanson devait passer la semaine dernière. Voilà. Oui. Parce qu'on avait une émission, excellente émission d'ailleurs, sur le marketing LGBT. C'était... Mmh. Oui, c'est ça. Le marketing, exactement.
Oui. Produits et services à destination de la communauté LGBT.
Et du coup, j'avais choisi des personnes, des chanteurs qui avaient fait de la pub. Et donc, j'avais trouvé Mylène Farmer qui avait fait la pub du loto en 1982.
Quelle horreur.
Mylène Farmer a fait de la pub télé.
Eh oui, elle est méconnaissable, 82, voilà. Et nous avons aussi Ariel Dombal.
Ah,
je sais que tu adores Ariel Dombal.
Elle a fait de la pub, je crois que c'est pour Emma Diamant, je ne me souviens plus exactement. Et donc, j'ai cherché, on va mettre une chanson de Ariel Dombal et je tombe sur quoi? Sur une reprise improbable de Hasta Siempre.
Ah oui.
Chanson pour le Che.
Oui, voilà. Oui.
Donc, donc c'est pas moi qui l'ai écrite. J'avoue, Jeanne Mess n'est pas moi qui ai écrit cette chanson. Et voilà, donc je me suis dit, c'est quand même intéressant qu'une femme comme Ariel Dombal, qui est quand même à mille lieues de la rébellion, hein, je suis quand même, voilà, désolée de le dire pour ceux qui l'aiment bien, s'empare de cette chanson.
Bah, disons qu'elle n'est pas une connerie près, on va dire.
Donc, voilà.
Mais par contre, tu sais qu'elle est marraine du festival Chéri Chéri à Paris.
Oui.
Non, mais après, voilà.
Elle mériterait bien plutôt Mireille d'Arc, je trouve, le surnom de grande sauterelle, parce que quand elle arrive, d'abord on voit les jambes, et puis quelques minutes après, on voit le reste, le buste, puis la tête arrive. On va écouter Ariel Dombal.
Voilà, magnifique version.
De Hasta Siempre, La Vista. Bon, Bernardo. Ah oui, il boit, bon, ça on sait qu'il boit, hein.
Vienes quemando la brisa. Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et bien voilà, de retour dans les studios. J'ai toujours aimé dire les studios.
Les studios de Radio France.
Je me crois à la Paramount, moi, tu sais, les studios. Et du coup, dans le studio, donc avec Laurence, ma collaboratrice depuis des années.
Et...
voilà, la voix des femmes à l'émission. Donc,
la voix des femmes.
Donc Roméo, Yvan, Bernard, Michel.
La voix des femmes opprimées. On n'écoute pas, on laisse pas parler.
Et puis Fabrice.
Oui monsieur, je veux m'exprimer.
Pardon, du coup ça sera pas toi, ça sera Fabrice qui va s'exprimer. Mais par contre, il a parlé d'un sujet intéressant. C'est la GPA.
Oui, moi, tu parles de femmes aussi.
Parce qu'apparemment,
ouais.
Ça m'énerve.
Et ça parle de femmes. Et c'est, voilà. Alors, c'est un film qui s'appelle Diane à les épaules, c'est ça ?
Diane à les épaules.
C'est un film français.
Un film français. Alors, voilà, j'étais avec mon mari vendredi dernier, un après-midi d'amour aussi torride qu'épuisant. Je cherchais mine de rien une bonne excuse pour sortir. Sortir, je veux dire, dehors, pas de mon mari. Bref, imprégné par la délicieuse perspective de partager le micro ce soir avec Yvan. Et hop, une subite envie de cinéma m'envahit. Porté par la thématique de l'après-midi, on se dit, tiens, si on allait voir une histoire de grossesse. Et nous voilà bras dessus, bras dessous, pour découvrir Diane à les épaules. Donc je situe, Diane à les épaules, c'est un film de Fabien Gaugard, où une jeune femme, donc Diane, décide de porter pour ses amis gays, Thomas et Jacques, un enfant. Sauf que voilà, la jeune femme à la vie un peu légère tombe amoureuse pendant sa grossesse de son ouvrier hétéro. Bah oui, forcément, le couple de PD sont fans d'art lyrique, alors que son sauveur hétéro est électricien. Bref, sans que l'on ne sache vraiment s'il s'agit d'une GPA ou d'une coparentalité, ceci dit en passant, oui, en effet, il y a une différence, et pas des moindres, puisque dans un cas, la femme porte un enfant issu d'une fécondation avec lequel elle n'a aucun lien génétique, et dans l'autre, elle porte son enfant, je veux dire, c'est son ovule fécondé, bref. Ce film n'est pas là pour faire dans le détail, mais plutôt dans le pathos. On assiste donc pendant 1h30 à la descente aux enfers de cette pauvre Diane, tiraillée entre l'emprise des deux papas sur elle et son amour naissant avec Fabrizio. Alors, chose rare dans un film, l'ensemble des personnages nous sont totalement antipathiques. On a une furieuse envie de baffer tout le monde. Sauf peut-être Fabrizio, qui nous est présenté un peu comme le bon gars qui serait malgré lui amputé de sa virilité d'homme hétérosexuel par cette tambouille un peu confuse et surtout maladroite. L'histoire avance lentement dans une espèce d'impression constante de malaise. Diane est un peu paumée dans sa vie, elle ne s'est ni trouvée professionnellement ni sentimentalement. Elle peine tragiquement à prendre soin d'elle qu'en voulant tout affronter seule, elle se déboîte à plusieurs reprises l'épaule. Comme une torture qu'elle s'inflige à elle-même, la grossesse est ici glauque. Durant tout le film, elle lutte contre son instinct d'attachement à l'enfant, quand son comportement amoureux nous laisse présager déjà d'une solide pathologie autour de l'attachement. Bien entendu, le couple de garçons voit d'un mauvais œil l'amour naissant avec Fabrizio et Diane se retrouve ballottée entre tout ce petit monde. Pour la scène de l'accouchement, Diane finit par un concours de circonstances seul au monde à devoir expulser cette mauvaise idée qu'est le fait de vouloir avoir un enfant quand on n'est pas normal et crie en larmes « Mais pourquoi je me suis infligé ça? Je suis conne !» Bref, si vous avez les tendances masochistes qui vous poussent encore à aller voir ce film, alors bouchez-vous les oreilles, je vais spoiler. L'histoire se termine sur deux scènes déroutantes où la pauvre Diane, dévorée par son instinct naturel de mère, vient hagard rendre visite à l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Puis elle se retrouve seule dans sa voiture, en larmes, pétrie de douleur, appelant au secours le brave Fabrizio. Décidément, le site de la Manif pour tous ne s'y est pas trompé dans son élogieuse critique du film en titrant « Diane à les épaules, un vibrant plaidoyer anti-GPA ». Bref, cette sortie cinéma a viré en ce qui me concerne à la fausse couche sur les sièges du Ciné-Cité, tellement la colère me montait face à tant de malhonnêteté et de manipulation. C'est à peine si j'avais pas honte d'être pédé en sortant de la salle. Alors c'est gentil de vous soucier de nous et de nos enfants, mais vraiment, non, pas ça. La GPA, si c'est cela dont traite le film, puisque sinon c'est juste une mère qui abandonne son enfant, est un sujet sensible, certes. Ça tombe bien, je suis un garçon très sensible. Et je peux vous assurer que malgré mon envie viscérale d'enfant, j'ai bien trop de respect pour les femmes, bien que n'ayant pas besoin de le notifier par un coït victorieux, pour utiliser un ventre comme une machine à bébé. J'ose également espérer qu'une femme se lançant dans le beau projet d'aider les hommes à fonder famille sera jaugée de sa capacité à porter à terme un tel projet en se respectant et en respectant l'enfant. Parce que oui, une femme est aussi capable de disposer de son corps sans forcément être victime naïve des hommes ou pire d'elle-même. Alors, chers auditeurs, si par malheur ce film a ébranlé votre projet de parentalité, par pitié, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations comme l'APGL qui œuvrent depuis 30 ans à faire que les choses se passent bien dans l'intérêt premier des enfants.
Bravo. Et c'est là où
bravo.
Et c'est là où je me tourne vers toi, Laurence, parce que oui. Laurence, c'est un membre de l'APGL. Très bien.
C'est très bien.
Alors la GPA, c'est quelque chose dont on parlera certainement beaucoup, mais on va déjà attendre qu'on parle de la PMA. On devrait nous en parler l'année prochaine. On verra bien.
Alors je crois que on va être pessimiste, mais la GPA, ouais. C'est...
Voilà, en tout cas, ça ne nous donne pas envie d'aller voir ton film.
ce qui est frappant, c'est l'opposé entre deux. Ils font un peu comme ça un bébé entre eux, et puis quand moi j'ai déjà été... à la PGL, à des réunions, etc. Et où on est vraiment, on se rend compte que tous les gens qui sont dans un projet comme ça de parentalité, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est accompagné, qui sort pas de n'importe où. Et puis tout le film est pas du tout précis, pas documenté, et c'est vraiment agaçant, quoi.
Très bien, nous avons compris que ça t'avait énervé.
Bah, c'est un film idéologique, hein, tout simplement. C'est une honte.
Et alors, chose très bizarre, j'ai lu la critique de Tétu, qui est élogieuse sur le film, qui parle d'un film solaire. Donc j'ai pas compris, je sais pas si un lavement à l'eau bénite avant d'aller voir le film. j'ai pas compris.
Solaire.
Bon, nous revenons à Yvan et Roméo. Yvan, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet
oui,
du mémoire.
C'est ce que nous allons faire tout de suite, le mémoire que nous évoquions au début de l'émission, donc de Roméo Izard, soutenu en juillet 2017. Silence, on parle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc du patrimoine, de l'histoire.
Alors, et du cinéma.
Et du cinéma. Voilà, tout ce que aime Écran Mixte.
Voilà. Bah, tu as parlé tout à l'heure d'Antoine Hidier, qui a fait un travail exceptionnel avec son mémoire aussi, Dissidence Rose. Et je l'ai rencontré. Et c'est quelqu'un de génial, en fait, qui a défriché déjà le terrain sur Lyon. Et à partir de ce travail, on peut faire vraiment des trucs extraordinaires. Et donc, j'ai essayé de pousser un peu plus loin sur le côté un peu cinéma, puisqu'il évoque un groupe militant dans les années 70 qui s'appelle le GLH, le groupe de libération homosexuelle, qui a été une association qui a duré de 76 à 80 à peu près. Et ce premier groupe, l'un des premiers groupes, je pense, sur Lyon, qui a milité pour les droits des gays, il y avait aussi un groupe lesbien à côté. Qui était issu du centre des femmes, et donc ils se côtoyaient un peu, elles étaient aussi présentes, et elles étaient présentes à ces festivals. Et en fait, ce groupe, ce GLH lyonnais, a été le premier groupe français à faire un festival de cinéma. Bon, ils n'appelaient pas ça comme ça, c'était une série de projections de films qu'on peut aujourd'hui classer queer, et donc il y avait des débats ensuite qui étaient proposés. Et qui permettait de parler d'homosexualité dans une période où c'était encore pénalisé par la loi.
Il y avait des projections vers Perrache, je crois, dans un cinéma dont je ne me souviens plus le nom, qui n'existe plus maintenant.
Voilà.
Et je sais qu'à l'époque, dans les années 70, ils avaient diffusé notamment Pic Narcissus, une sorte de mini-festival, en fait, l'ancêtre d'Écran Mixte.
Voilà, donc c'est exactement
ça. T'en parles là-dedans, non, évidemment.
C'est ça, c'est ce festival.
Parce que ton mémoire porte sur Lyon, en fait. C'est sur la nation entière.
J'ai essayé de défricher ailleurs et je suis même parti international. Mais en fait, j'ai essayé de trouver des réseaux. Pourquoi, d'où vient cette idée de projeter des films gays, lesbiens? Parce que c'est vrai, c'est un peu bizarre. Enfin, on se demande au premier abord pourquoi on fait ça. On comprend très vite que c'est s'il n'y a pas un objectif politique ou de mémoire. Ça sert pas à grand chose, qu'il faut avoir ça aussi à l'esprit, que ça permet de visibiliser des populations qui passeraient à la trappe si nous on ne le faisait pas. Et donc j'ai essayé de trouver un peu les réseaux qui avaient amené en France ce type de cinéma. Donc peut-être une première période où Jean Genet, les films de étaient un peu passés sous cap, voilà, des préjugations.
Oui, parce que ces festivals permettaient de voir ces films.
Voilà.
Tu parlais de Jean Genet, c'est une histoire d'amour, normalement ça déjà.
Un chant d'amour.
Un chant d'amour, merci. Le seul film de Jean Genet, Pink Narcissus aussi à l'époque, qui n'a certainement pas bénéficié d'une très grande diffusion dans les grandes salles à l'époque. C'est vrai, hein, Yvan, ces petits festivals, ces ancêtres d'écrans mixtes, donc, ont permis de visionner des films qu'on n'aurait pas vus sinon, quoi.
Ben, c'est des films très underground. Je sais qu'il y a eu des descentes de flics aux États-Unis lors de séances privées d'un chant d'amour, je crois, oui. Aux États-Unis. Mais tu parles en fait dans ton mémoire, avant tout, des ancêtres des festivals. C'est-à-dire, en fait, c'était des sortes de, comment dirais-je, des happenings de projection.
En fait, ce sont des groupes qui sont vraiment des enfants de mai 68, des événements de mai-juin 68. Et donc, ils sont dans l'instantané, il faut quelque chose que ça aille vite. Donc, ils ne sont pas dans la projection à dire c'est la première édition, il y aura une deuxième édition après. Voilà, il faut faire quelque chose. Si ça marche, voilà. Et ils ont fait ce premier festival en avril 76, où ils ont diffusé Pink Narcissus, Misogynie et les hommes fleurs. Voilà, des films qui n'étaient vraiment pas projetés. Donc, c'est grâce à ce cinéma qui s'appelle Le Cinématographe, qui était à côté de Perrache, qui était un cinéma associatif et qui permettait donc aux groupes un peu underground, un peu militants, de pouvoir diffuser ce type de sujet.
Des pionniers, en fait.
Oui, hein. Mais ce qui
est... Il fallait oser quand même.
Ce qui est intéressant, c'est que le directeur du Cinématographe, qui ensuite était le directeur du cinéma Lozola à Villeurbanne, qui s'appelle Alain Liattard, lui n'est absolument pas homosexuel. Au contraire, c'était un militant communiste. Et donc, il était tout à fait ouvert au fait de faire des projections homosexuelles.
Ouais.
Et puis, c'est par moi, j'ai l'impression que c'est aussi par les films et par la culture qu'on se construit en tant que gay, surtout quand on est jeune. Moi, je me souviens des premières nuits gays sur Canal. Donc, c'est pas un festival, mais c'est une sorte de festival de la télé,
ouais.
Où j'avais 17 ans et en cachette, je me levais pour enregistrer les films qui passaient. Bon, il y avait des pornos aussi, c'était les premiers pornos gays. Mais bon, ouais, il y avait aussi d'autres films, dont un film qui s'appelait Beautiful Thing, qui m'avait fait un bien fou quand j'avais 16 ans de voir ce film avec une histoire d'amour entre deux garçons hyper romantiques. Alors qu'à l'époque, la seule chose qu'on avait dans le grand public, c'était Pédale Douce ou alors Les Nuits Fauves, qui était du coup une vision assez, assez noire de notre futur en tant qu'homosexuel qu'on avait 17 ans à l'époque, quoi.
Et Beautiful Thing, on l'a passé lors de la dernière édition d'Écran Mixte.
Tout à fait.
En 35
minutes. Génial, ce film.
Oui. Et c'est vrai que Écran Mixte, justement, reprend toujours un petit peu... je pense, par exemple, à une conférence de Didier Rohde-Bétonné, justement, sur Victor Victoria, mais la version allemande, la première version, qui est quand même un film des années 30. Faut le faire, quand même, présenter un film des années 30 dans un festival. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, y a pas
et il y a beaucoup de monde à chaque fois.
Il y a beaucoup de monde, oui.
C'est
intéressant. C'était au Goethe Institute, parce que je travaillais avec le Goethe Institute, il y avait beaucoup de monde. Scène de chasse en Bavière. Qui aurait dit qu'un jour je verrais scène de chasse en Bavière sur grand écran?
Dans une salle pleine.
Dans une salle pleine, oui.
Encore une fois. Donc il y a encore la volonté de voir les films ensemble, de les redécouvrir ensemble, dans les meilleures conditions, mais surtout de vivre les choses ensemble.
Mais c'est moins sulfureux quand même de faire maintenant un festival LGBT que dans les années 70.
Oui.
Oui, mais c'est moins sulfureux, mais c'est risqué encore, je trouve. Parce que c'est
surtout
bien.
Quand on a la Vauquiez, je l'ai dit en nom. Laurent Vauquier. Non, c'est pas très gay-friendly, donc on parlait de la subvention, des subventions sucrées l'année dernière.
Il y a des endroits dans lesquels c'est vraiment un acte de résistance. Hein. Mm. Il y a des zones de France où c'est encore un acte de résistance, notamment des villes de droite. Voilà. Prenons l'exemple de Genève. Voilà, faire un festival LGBT à Genève, c'est un vrai acte, même pas de militantisme, mais vraiment de résistance.
Ah oui, c'est la croix et la bannière.
Absolument. D'abord, il n'y a pas de financement public, oui. la population est totalement hostile. C'est vraiment...
Ah oui.
C'est encore très courageux de tenir des festivals LGBT. Et c'est d'autant plus courageux qu'on a très souvent des budgets de kermesse et pas du tout des budgets de festivals.
Moi, je trouve ça génial. Excuse-moi, je disais aussi que c'était risqué parce que Écran Mixte marche... très bien et a trouvé son public, j'ai l'impression, dès le premier festival, et le trouve de plus en plus, et c'est vraiment génial. Mais c'est quand même, quand tu dis des films qui datent des années 30, ça le comble, je sais, enfin, mais c'est génial, mais je sais pas si à chaque fois, franchement, si t'es sûr que ça va attirer autant de gens, est-ce qu'à chaque fois c'est quand même pas une surprise de voir des salles combles pour ce type de film?
Bah non. C'est-à-dire, à partir du moment où les films sont intéressants, pourquoi j'en reviendrai pas?
C'est un peu une prise de risque, mais en même temps, oui. C'est un festival.
Non,
donc,
c'est très bien, mais moi quand j'entends salles combles, je me dis mais c'est génial, mais en fait, des fois on soupçonne pas qu'il y ait encore autant de gens, c'est peut-être triste et fou de dire ça, qu'ils soient autant intéressés par le patrimoine cinématographique, quel que soit le type de cinéma.
Mais regarde ce qui se passe avec le Festival Lumière, c'est un triomphe absolu.
Oui, bien sûr.
Partout, toutes les séances, les soirées d'ouverture, il y a 15 000 personnes, c'est archi plein, c'est extraordinaire.
Et puis il y a l'ambiance aussi, moi j'étais au cinéma le soir où vous avez passé Priscilla Folle du Désert, j'allais voir un autre film et du coup je suis tombé sur tous les gens qui allaient là et c'était la folie dans le pâté, tout le monde était déguisé et tout.
C'est ça, c'est une ambiance.
Le spectacle est aussi dans la salle, quoi. Les gens, ils sont là pour vivre un truc ensemble et partager, quoi.
C'est ça, c'est le côté festif, propre au festival, ouais.
Roméo, quelque chose à rajouter ?
C'était déjà très suivi dans les années 70, c'est-à-dire que ces projections-là, ils faisaient salle comble. Mmh. Et pourquoi je l'ai appelé Silence, on parle, ce mémoire ? Parce que c'était vraiment un moment de parole. C'est-à-dire, on s'en fichait presque des films. C'était l'endroit où on pouvait parler de ça, puisqu'il n'y avait aucun endroit, il n'y avait pas d'association, on pouvait s'exprimer, tout ça. C'était vraiment un endroit de libération de la parole et d'émancipation des personnes.
Oui, avec un côté aussi un peu, on est dans une salle, donc on peut y aller discrètement, voilà.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais rien du tout.
Qu'est-ce qui se passait dans la salle? T'as quelque chose à me raconter sur...
Non, je veux dire, c'était pas spécialement des gens invités, en tout cas, qui allaient peut-être dans ce festival, mais peut-être même de loin pour venir...
C'était ouvert, il y a un tract, par exemple, qu'on a trouvé qui est au fond Chomara, donc il y a un tract de l'époque d'une de ces projections qui dit que c'était ouvert à tout le monde, aux femmes, aux mères, tout ça, qui veulent parler de leurs enfants. Voilà, c'était un lieu d'expression publique et ça marchait très très bien. Mmh. Voilà, ce qui était important, ce qui est important de le dire sur ces premiers festivals, c'est que c'était des lieux de débat et de parole.
D'accord, tout ça, tu le résumes très bien donc dans ton mémoire. Mais malheureusement, le mémoire n'est pas accessible. Il faudrait faire comme Antoine Didier, trouver un éditeur.
Oui.
Parce que ce qui s'était passé, le livre que j'évoquais, Dissidence Rose, tu as cité le nom, Roméo, effectivement, c'est à la base, c'est un mémoire, le mémoire d'Antoine Didier, qui a été publié aux éditions Michel Chomara, d'ailleurs.
Il faut absolument éditer ton mémoire. Mais bien sûr.
Bien sûr, mais oui.
Mais, bah, arrêtez de le gêner, là, regardez.
Mais non, je ne gêne pas.
Bon, en tout cas, moi, je le lirai. Tu me passeras ton exemplaire, je le lirai. Et on aura l'occasion, de toute façon, Roméo, de te revoir ici, j'espère, pour que tu nous parles de la suite des événements et puis de certains projets, peut-être, que tu pourrais avoir concernant les archives, parce que je te sens à fond dedans.
Avec plaisir.
Voilà. Alors, on va devoir se quitter, malheureusement, mais à moins que quelqu'un ait à rajouter quelque chose. Mais on va parler de... Non, mais pas de musique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter là-bas? On dirait les deux pépés des Mopeds Show, là, tous les deux.
Qu'est-ce qu'ils nous font derrière, là? Ouais. C'est pas possible.
Alors, du coup...
Il a flippé parce qu'il a cru que t'allais couper maintenant l'émission. Non. Il a fait, mais
j'ai des choses à dire. Encore même toi, Bernard, il paraît que t'as quelque chose à dire,
Bernard.
Bon,
oui.
D'accord.
Oh, bah, pas l'innocent.
Bon, tu le diras après. Parce qu'on voudrait... Yvan, je vais te céder la parole une dernière fois.
Oui.
Et après,
une dernière fois.
De l'émission. Tu reviendras. Et en fait, c'est pour parler du festival Omniporn.
Oui. Voilà. Demain soir, ouverture de la 6e édition d'Omniporn avec un super film, le nouveau film d'Émilie Jouvet, My Body, My Rules. Extraordinaire film militant, c'est absolument jubilatoire. Et clôture dimanche, et entre temps, énormément de choses, des performances, des ateliers, une conférence sur la pipe. Tu devrais venir, Gérald.
Vite,
tu apprendras des choses, m'a-t-on dit.
La pipe.
Fumer la pipe, tu sais,
bien sûr.
Voilà, tu mets, tu sais, du tabac, oui, tu allumes l'âme, puis tu t'inspires bien.
Il y aura un vide.
Un vide grenier fétiche, ouais, où tu peux ramener tes vieilles fringues fétiches, ton vieux god que tu ne sers plus
pour usager.
Usager.
Et sale.
C'est ça.
Oh mon Dieu, quelle horreur.
Et il y aura aussi beaucoup de projections, notamment une soirée dédiée à Noël Alejandro, qui est le cinéaste phare actuel gay à la mode, pour une soirée spéciale de 4 films extraordinaires. Il y aura un documentaire sur les vieux, les seniors LGBT, très très chaud sur la scène finale. Et puis on clôturera avec une séance de court-métrage de La Roue du Cochon, où on demandera aux spectateurs de voter si chaque film est c'est du lard ou si c'est du cochon.
D'accord, alors le festival Omniporn, donc c'est au Lavoir Public.
C'est au Lavoir Public, les séances sont à 5 euros, franchement, venez, il y a une ambiance de folie, il y a un monde de dingue. C'est tout au Lavoir Public, du jeudi au dimanche soir, avec une soirée officielle, Popporn Party, qui sera au Sonic, samedi soir.
Alors, c'est pas la 6e édition, je crois.
6e, ouais.
6e,
ouais.
Bien, vous allez y aller. C'est des trucs pour les filles, hein, tu sais, je te le dis.
Je sais, mais je suis bien allée.
Ouais, il y a pas mal de films de courts-métrages lesbiens, notamment.
Ouais.
Mais surtout que toi, tu es un habitué de...
Oui,
de
c'est vrai. J'ai fait des trucs là-bas.
Tu nous as laissé nous.
Je me suis montré nu et j'ai fait du hula hoop avec ma bite. Tout à fait. Non, mais ça va.
Du hula hoop.
Sur les cellulites comme des nippies, en fait. On a essayé de mettre les nippies sur les tétons. J'ai appris pendant des semaines, mais ça tenait pas. Donc, du coup, j'ai fait avec.
Ah oui, d'accord. C'est du hula hoop, parce que moi je connais l'hélicoptère, mais.
Non, c'était le. Ouais, de tourner le tronc, quoi.
Bien. Bon, alors moi j'avais des choses aussi à dire avant de nous quitter. Je te parlerai. On parlera de toi, Bernard, parce que c'est vraiment très important, c'est ça? Tu tiens à en parler? Oui? Non?
Mais si!
Alors avant.
C'est une bonne nouvelle, hein, s'inquiète, tout va bien.
Bernard est enceinte.
C'est ça. Bernard est enceinte.
Il entend un bébé. Oui. Donc, du coup, moi, je voulais parler de deux choses. Alors, en parlant des archives, peut-être que tu es au courant de ce qui se passe à l'ENS.
J'y serai.
Qui sera, voilà. Le laboratoire TPG Théorie et Performance des Genres, qui organise donc à l'ENS donc une journée complète dédiée aux mémoires et représentations du sida. Donc là, c'est en plein dans ton domaine, Roméo. Et il y aura quand même la participation de personnalités importantes, Lucille Tott, Elisabeth Lebovici, quand même. Non, je pense que c'est Lebovici, mais rien, c'est Lebovici, voilà. Enfin, beaucoup de monde, quoi, intéressant. Et puis aussi Fris, l'association Fris qu'on connaît bien ici, qui est une association du centre LGBTI, qui participe. C'est une journée complète, ça commence le matin à 9h45 jusqu'à 18h le soir. Et est-ce que tu veux nous en dire deux mots sinon?
Oui, il y aura l'exposition de Fris donc, qui sera installée là-bas. Et les intervenants sont super, c'est des copains. Renaud est super, il faut y aller.
Il faut y aller. Et l'intérêt en plus, c'est qu'effectivement, on est en plein dans le domaine de ce dont nous parlions ce soir. Mémoire, représentation, et là, ça concerne le sida. Alors, théorie et performance des genres, a été créé en 2016 à l'ENS. Hein. Voilà. Et ça, c'est le 18 décembre 2017. Donc, c'est lundi, de 9h30 à 19h à l'ENS, donc site Buisson. Voilà. Que voulais-je dire encore? Ah oui, alors le 18 décembre aussi, mais ça tombe bien, c'est juste après, à 19h. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Laurence, j'avais interviewé à une époque, il y a quelques années de ça, non, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait une émission avec Candy Williams, artiste transformiste célèbre, et les organisateurs French Connection du Show Continental Europe. Alors, Show Continental, c'est un show américain, très rapidement, c'est le deuxième plus grand show, le deuxième plus grand circuit drag queen des États-Unis, après le Miss Mister Gay America, et qui a décidé, parce que l'impulsion de French Connection, qui est une société américaine mais fondée par 2 Français, mettre un pied en Europe, puisque ça n'existe pas en Europe, alors qu'aux États-Unis, ce genre de circuit, il y a 5 ou 6 circuits à peu près. Le plus célèbre, c'est le show télévisé de RuPaul. Continental Show, lui, se positionne dans un aspect un peu plus glamour que RuPaul, qui est à show télévisé, donc qui est beaucoup plus extravagant, je dirais. Mais c'est un grand show qui, en septembre, est couronné la Miss et Mister Miss et Drag Queen et Mister Continental à Chicago. Toutes les années, ça se passe. Et avant, il y a toute une série de personnes donc, qui sont élues dans tous les États américains et maintenant donc en Europe. Et donc, j'avais fait l'interview à l'époque donc de la reine de Miss Drag Queen continentale américaine à l'époque, du Mister Gay américain, enfin c'est Mister Continental plus exactement, qui était venu à Lyon, puisqu'il se trouve que chaque année, depuis 3 ans, l'élection de Miss et Mister Europe continentale a lieu à Lyon. Oui. Pourquoi Lyon et pas ailleurs? Parce que les fondateurs de French Connection, qui, comme je le disais, sont français, sont lyonnais, et ils n'ont jamais oublié leurs origines. Ils sont américains, ils habitent à Chicago, mais ils n'ont pas oublié qu'ils viennent de Lyon. Il y en a un d'ailleurs qui habitait Saint-Fond, hein, carrément, ah, Saint-Fond à Chicago. Et du coup, ils ont toutes les années. Alors au début, ça se passait au cabaret au Paradis, qui est un cabaret transformiste, un peu une autre chez Michou lyonnais. Et puis comme c'est trop petit, maintenant ils font ça à la plateforme. Et ils espèrent dans la suite ça prendre du volume, de l'importance. Et bon, il tient pas à ce que ce soit toujours à Lyon. Il espère que ça se fasse un peu à Amsterdam parce que c'est européen. Il y avait par exemple, lorsque j'ai fait mon interview, il y avait Miss Europe continentale qui était une brésilienne mais de nationalité allemande résidant à Hambourg, donc c'est vraiment européen.
Le père était né à Saint-Fond.
Non mais en fait, à trifouiller des fois. Non mais en fait si tu veux, tout ça pour dire que le final reprend, donc parmi les finalistes il y a le Miss, la Miss et le Mister Europe continentale, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors autre particularité par rapport à Miss et Mister Gay America, je tenais à le préciser, qui est le plus ancien show drag queen, circuit drag queen des États-Unis, Miss et Mister Gay America, n'était pas ouvert aux transgenres. Il fallait par exemple que ce soit des transformistes ou des drag queens, mais une représentation de la féminité, mais par des hommes cisgenres. Ouais. Alors que Continental, le show Continental, c'est ouvert aux transgenres. Hein, voilà. Mais toujours dans l'esprit drag queen. Un peu plus glamour que RuPaul, parce que RuPaul, c'est un peu trash. Bon, mais c'est la télévision, RuPaul aussi.
Oui.
Le grand show RuPaul Drag Race de Logo
buzz,
TV.
Quoi.
Voilà. Bref, tout ça, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'ils reviennent tous les titulaires de Miss Mister Europe Continental 2017 vont être justement au cabaret au Paradis lundi le 18 décembre. Je crois que ça va être à partir de 20h. Donc pour un spectacle en fait. Donc il y aura, quand je dis les titulaires, il y a donc Miss Mister, mais il y a aussi les dauphins, les dauphines. Donc Andy William fait partie, l'artiste transformiste que nous connaissons bien ici, que nous saluons si elle nous écoute. Et il y a aussi Candy Strayton. Voilà, vous devriez faire. Candice, c'est la drag queen qui est historique du show Continental. Elle était au début du show Continental qui voilà, est quand même qui est très ancien, qui est le deuxième. Donc Candice Stratton, dont tout le monde sait, on a retrouvé son boa dans les ruines de Lascaux pour dire ça, elle est vieille. J'adore la faire celle-là. Et donc du coup. Non, enfin, elle sera là. En direct des États-Unis, elle sera là. Et ça a été une des premières gagnantes du show Continental.
D'accord.
Voilà.
Donc elle est plus vieille que RuPaul?
Ah oui, elle est plus vieille que RuPaul. Oui. Il paraît qu'elle serait aussi vieille que Lynn Renault.
Bah, dis donc.
Nous parlions la semaine dernière. Nous étions surpris d'ailleurs qu'elle était encore en vie aussi.
Non, toi, tu étais le seul. Arrête avec Lynn Renault. Ça suffit.
Il ne faut pas toucher Lynn Renault. Bon, voilà. C'était pour dire que ça, c'est lundi 18 au Paradis. Alors, lundi 18, vous pouvez aller. Donc à la journée de l'OMS, très sérieuse, pour mémoire représentation du sida, à laquelle va participer également Roméo, avec plein d'invités de prestige, et plein d'ateliers, et plein de conférences intéressantes. Et puis le soir, aller voir le spectacle de Miss et Mister Continental. Alors il faut savoir que le Mister, c'est un bonhomme, hein, c'est un Mister, et puis Miss, c'est la drag queen, tout,
okay.
C'est très binaire en fait, finalement, comme représentation. Bernard, à toi, toi l'honneur.
Oui, qu'est-ce que je dois dire?
Que tu es follement amoureux de moi, mais je le savais.
Qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure?
C'est vrai que dans mes soirées gérontophiles, il est arrivé des choses extraordinaires.
Ah!
Et puis voilà, c'est que je suis grand-père.
Ah!
Depuis mercredi. Et elle est arrivée, ma petite fille, à 2h04.
Ah oui.
Et elle a balayé Johnny.
Ah oui.
Elle a viré comme ça.
Elle a fait ombrage. Elle a fait ombrage, ouais, c'est sûr. Il y en a un qui part et une qui arrive.
Exactement.
Voilà, c'est
donc,
la
félicitations,
vie.
Bernard.
Félicitations.
Ben oui.
Bernard.
Bernardo. Bernardo, grand-père.
Voilà. Voilà. Mamie Bernard.
C'est un tournant dans la vie.
C'est très bien.
Bien, dans l'émission, on touche à sa fin. Merci. Alors, Fabrice, on te retrouvera la semaine prochaine.
Ouais.
Hein, si tout va bien. Ouais. Il fera Papa Noël.
Essayez d'aller voir un film qui t'énerve, ça me fait rire.
Ça marche.
Il va faire du hula hoop pour Noël. Ça,
c'est un peu ça.
Un peu ça.
Dommage qu'on soit à la radio.
Pluriel, pluriel. Pluriel,
pluriel. C'est pas grave.
Pluriel. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.